Bonjour Béatrice Queneau.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence en économie à l'université Rennes 2 et chercheuse permanente au sein de l'unité de recherche Espace et Société. Une partie de vos recherches se concentre notamment sur les politiques d'aménagement et de développement urbain, donc durable. Et vendredi dernier, donc le 13 mai, le Haut Conseil Breton pour le Climat s'est réuni au siège du Conseil Régional. Vous êtes membre de ce Haut Conseil. Pourquoi ce Conseil a été créé à la base? De quoi c'est parti et quel est son but?
Alors en fait, la création du Haut Conseil Breton pour le Climat, elle fait suite à un processus qui avait été initié par la région Bretagne dans le cadre de la Brésine, où il s'agissait en fait d'avoir une consultation large sur la mise en place d'une politique régionale en termes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, et notamment dans le cadre de la préparation de son SRADET, son schéma régional à l'aménagement et à la transition énergétique. Et donc, en fait, ce Haut Conseil, il a pour vocation d'émettre essentiellement des avis scientifiques, puisqu'il est composé en fait de 20 membres. C'est un conseil interdisciplinaire qui va regrouper à la fois des chercheurs en sciences physiques, en sciences du climat, des géographes, des climatologues, des océanographes, et puis des chercheurs en sciences humaines et sociales, notamment en économie, en sociologie, en droit. L'idée, c'est qu'ils puissent permettre à la région d'avoir un éclairage scientifique pour une mise en cohérence en fait, de ces politiques publiques au regard des deux enjeux en fait, de la lutte concertée contre le changement climatique, à savoir donc, l'atténuation et l'adaptation à ces impacts.
Est-ce qu'on retrouve ce genre de haut conseil dans d'autres régions ?
Oui, alors en fait, il y a plusieurs régions qui se sont dotées de GREC, de groupes régionaux d'experts sur le changement climatique. Le plus structuré, je dirais que c'est celui de la région Aquitaine, Aclimaterra, qui a été le premier à être créé. Alors ce qui les différencie d'une autre, c'est que la plupart sont institués en association, avec une indépendance par rapport aux régions, alors que le nôtre est véritablement une émanation de la région Bretagne qui a souhaité, en fait, c'est un acte politique fort en fait, de l'équipe régionale en place, de se doter de ce conseil.
Alors Franck Lecoq, qui est l'un des auteurs principaux du dernier rapport du GIEC, était présent justement vendredi au moment de l'installation de ce Haut Conseil. Comment ce rapport du GIEC, il est ancré dans cette démarche et comment il est compris aussi au regard des enjeux climatiques bretons ?
Alors en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le sixième rapport du GIEC a commencé d'être remis en août dernier et il va comporter trois volets. En fait, il y a un premier volet qui va concerner les fondements physiques du changement climatique, qui va permettre de voir en fait quelle a été l'ampleur prise par le changement climatique de nature anthropique depuis la révolution pré-industrielle et donc d'avoir les derniers éléments scientifiques qui permettent d'apprécier donc l'ampleur de ce changement climatique. Et puis il y a un second volet qui va porter sur les impacts du changement climatique pour les sociétés humaines et qui va en particulier examiner les vulnérabilités et les enjeux d'adaptation pour les sociétés humaines au regard des impacts attendus du changement climatique. Et un troisième volet qui, lui, est davantage consacré sur les stratégies d'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire quelles politiques publiques on peut mettre en œuvre, notamment pour enrayer en fait, l'ampleur prise par le changement climatique. Alors, pour répondre à votre question sur la manière dont ce rapport est accueilli en Bretagne. Ce qu'il faut souligner tout d'abord, c'est que le GIEC en fait, regroupe l'ensemble de la production scientifique au plan mondial la plus pertinente sur le sujet et donc va privilégier des approches qui sont menées à un échelon global, planétaire. Donc la difficulté ensuite, c'est de pouvoir traduire en fait, cette évolution climatique au regard de sa traduction par grande région du monde, par pays, et ensuite au niveau régional. sachant que en fait on parle souvent par exemple d'un réchauffement planétaire qui pourrait atteindre plus 2 voire plus 4 degrés Celsius à l'horizon du 21e siècle, mais sachant que ce réchauffement global aura une traduction régionale qui sera très différenciée en fait par grandes régions du monde et par pays. Et donc c'est toute la difficulté en fait de descente des échelles spatiales pour traduire en fait les évolutions globales en évolutions nationales ou infranationales. Alors pour ce qui est de la région Bretagne, ce à quoi on s'attend en termes d'impact du changement climatique, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, bon, il y a effectivement la question de l'évolution de la température de l'air, hein, de la température de surface qui va augmenter. Mais derrière cette élévation moyenne de la température, ce que l'on va connaître, en fait, ce sont des extrêmes météorologiques avec des périodes beaucoup plus chaudes ou à l'inverse beaucoup plus froides que celles que l'on connaissait jusqu'ici, et donc avec des records de température, par exemple, qui pourront se produire en période estivale. L'autre changement attendu et qui est un enjeu fort pour la Bretagne, qui a un littoral breton assez étendu, c'est la question à la fois de l'impact de l'élévation du niveau de la mer et la question aussi de l'érosion côtière avec laquelle elle va interférer. Donc ça, c'est tout l'enjeu du trait de côte et de son évolution. Et sachant que voilà, sur certaines portions de la côte bretonne, l'érosion marine est déjà très, très accentuée. Un autre enjeu, c'est la question notamment du stress hydrique, qui risque d'être un enjeu majeur, parce que en fait, on risque de connaître des périodes de sécheresse à la fois plus fréquente, plus étendue, et au regard des enjeux de l'agriculture bretonne, cette question des sécheresses va être importante. Elle peut aussi jouer également en milieu urbain, puisque voilà, on peut avoir des situations assez problématiques par rapport à la disponibilité de la ressource en eau. Parmi les autres impacts, il y a effectivement la question aussi des vagues de chaleur, notamment en milieu urbain, parce qu'on peut avoir là effectivement des périodes caniculaires qui peuvent avoir des répercussions sur la santé humaine et notamment les populations les plus vulnérables, les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes sans domicile fixe aussi. Mais pour résumer, je dirais que en fait, le principal impact attendu, il va être social. C'est-à-dire que les risques qu'on a identifiés, notamment au niveau du Haut Conseil breton, alors qui s'est assez peu réuni de manière officielle jusqu'ici, c'est cette question du risque d'explosion sociale. Parce qu'un des impacts du changement climatique, ça va être de considérablement exacerber les vulnérabilités, et ce sont notamment les populations les plus démunies, les plus défavorisées, qui vont être les plus durement touchées.
Et pourquoi les villes doivent se saisir en urgence de cette problématique? Quel est leur rôle à jouer, tout en sachant qu'il y a plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville? Pourquoi doivent-elles se saisir au plus vite de ces enjeux climatiques?
Alors, je vais revenir sur le sixième rapport du GIEC, parce qu'en fait, ce rapport-là, il pousse un nouveau cri d'alarme. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça fait près de plus de 50 ans maintenant que la communauté scientifique alerte sur les enjeux autour du changement climatique, et notamment en termes d'impact. Mais ce qu'a bien souligné le dernier rapport, c'est que, en fait, au cours de la dernière décennie, hein, sur la période 2010-2019, les émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre au plan mondial, elles ont été supérieures à celles de toutes les décennies précédentes. Et cela en dépit de la négociation climatique qui est menée depuis le début des années 90 au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'en 2019, on a émis quand même 59 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2019, dont 64% provenaient des émissions de CO2 liées notamment aux carburants fossiles et à l'industrie. Alors ça veut dire qu'avec un tel niveau d'émissions, eh bien, les émissions cumulées dans l'atmosphère terrestre s'amplifie. Et cela veut dire qu'on a une concentration atmosphérique croissante des gaz à effet de serre autour de plus de 410 parties par million aujourd'hui, alors que les scientifiques estiment que la limite à ne pas franchir serait aux alentours de 450 parties par million. Donc on est très proche, en fait, de ce qui est considéré comme étant la limite dangereuse à ne pas franchir en termes de concentration atmosphérique des gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes, cette fois-ci, d'émissions de gaz à effet de serre? Ça veut dire que si l'on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, qui a été signé en 2015, qui stipule qu'en fait, il ne faudrait pas dépasser un réchauffement planétaire de plus de 2 degrés Celsius à l'horizon 2100, et mieux, essayer de rester en deçà des plus 1,5 degrés Celsius à la fin du siècle. Cela signifie que, en fait, si l'on veut tenir l'objectif 2 degrés, il faudrait qu'on ait, dès aujourd'hui, une réduction drastique de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre et une réduction drastique qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Et le chiffre avancé dans le dernier rapport, c'est qu'il faut que cette diminution, elle soit de moins 27% de nos émissions mondiales à l'horizon 2030. Ça veut dire que la fenêtre de tir, au fil de l'inaction en quelque sorte des États dans le cadre de la négociation climatique, elle s'est considérablement réduite. Et donc c'est pour ça que ce dernier rapport, il est important, parce qu'on sait qu'au rythme des émissions actuelles, le plus 1,5 degré Celsius par rapport au niveau des températures moyennes du globe au niveau pré-industriel, il est inatteignable. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de tenir le plus 2 degrés Celsius qui se traduira néanmoins, si on arrive à le tenir, par des impacts du changement climatique qui seront non négligeables. Et donc, à l'heure actuelle, ce qu'estime un réseau comme le Climate Action Tracker, c'est que avec les nouvelles promesses de réduction de leurs émissions qui ont été annoncées par les États partis à la négociation à la COP26, c'est qu'on s'acheminerait vers une trajectoire à plus 2,4 degrés Celsius si les engagements de 2030 sont respectés. Donc ça montre l'urgence qu'il y a à agir. Et de ce point de vue-là, on ne peut que regretter le manque de volonté politique des États qui, au regard des contributions nationales qu'ils ont annoncées dans le cadre de l'accord de Paris, sont très loin en fait, de ce qu'il faudrait faire en termes de réduction d'émissions. Et c'est cela qui rend d'autant plus urgente l'action à d'autres niveaux, auprès d'autres acteurs, dont en particulier les villes. Et les villes d'ailleurs qui par rapport à cela ne sont pas restées inactives puisque en fait depuis le début des années 90 elles se sont elles-mêmes constituées en réseau pour faire exercer une pression en fait auprès des États membres pour qu'ils soient plus ambitieux en fait dans leur politique d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et donc là les villes qui vont être en fait les espaces les plus durement impactés par les effets attendus du changement climatique. Elles voient bien l'urgence qu'il y a à agir. Et finalement, elles n'attendent plus que les États prennent l'initiative. Elles-mêmes ont commencé d'être des acteurs de plus en plus proactifs, notamment en matière d'atténuation du changement climatique.
Et justement, parmi les solutions proposées par les villes pour essayer de limiter au mieux les impacts qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut retrouver concrètement? Est-ce que ça relève du logement? Est-ce que ça relève d'espaces verts?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que même si les villes sont proactives, il faut dire que l'évolution des réglementations, notamment en France, a été un facteur qui a joué aussi de manière importante. Et notamment depuis les lois Grenelle de 2009 et de 2010, et puis avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la LETCV, les villes ont désormais l'obligation de s'engager en fait dans cette lutte contre le changement climatique. Et c'est ainsi que en fait les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux, qui sont en fait devenus obligatoires pour les EPCI, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants depuis 2017, sont pour les villes un instrument de planification précieux pour s'engager en fait dans cette démarche-là. Reste que un certain nombre de villes qui ne sont pas obligées par la loi de mettre en place des PCAET ne sont pas restées pour autant inactives et se sont engagées de manière volontaire. Alors par rapport à leur action, ce qui est intéressant, c'est que on a eu en 2021 une première analyse en fait des actions entreprises par les EPCI français au titre de leur PCAET. Et notamment, cette étude a permis d'évaluer leur plan d'action au regard des PCAET qui avaient été approuvés en octobre 2020. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que, en gros, 11% des intercommunalités françaises, qu'elles soient obligées ou pas d'être dotées d'un PCAET, en ont un qui est d'ores et déjà approuvé. Alors, ce taux, il peut paraître relativement faible, hein, mais il montre qu'il y a là aussi urgence à ce que les EPCI se saisissent, en fait, de cet instrument. Et en fait, le pourcentage de couverture des intercommunalités par les PCAET, il varie sensiblement d'une région à l'autre. Et par exemple, en Bretagne, les intercommunalités sont d'assez bons élèves, puisque c'est une des régions françaises où le taux d'approbation des PCAET a été le plus fort. Notamment parce qu'il y a eu un programme d'accompagnement et une plateforme collaborative qui avait été mise en place grâce à un partenariat entre la région, l'ADEME et l'État. Alors, une fois qu'on a dit cela, reste la question de savoir quel est le contenu, en fait, de ces documents. Et là-dessus, on voit bien qu'il y a une différence entre le volet atténuation du changement climatique et le volet adaptation. Parce que dans la plupart des PCAET approuvés, en fait, ce que l'on constate, c'est que les collectivités se sont surtout emparées de la question de l'atténuation pour plusieurs raisons, parce que déjà, l'atténuation du changement climatique, ça renvoie à des solutions essentiellement technologiques pour lesquelles on peut chiffrer, en fait, à la fois les investissements à consentir et les résultats à en attendre en termes de réduction des émissions. Donc, je dirais que par rapport à cela, c'est plus facile aussi parce que finalement, d'un territoire à l'autre, on peut traduire les instruments d'atténuation un peu de la même manière, on peut les décliner un peu à l'identique d'un territoire à l'autre. Par exemple, de mettre en place de nouvelles structures de production d'énergie qui soient tournées vers les énergies renouvelables, comme par exemple les champs d'éolien. Tout cela va, en gros, ce sont les mêmes technologies mobilisées, quel que soit le territoire. Mmh. En revanche, pour l'adaptation, on ne peut pas avoir une transposition comme ça des mesures d'adaptation d'un territoire à l'autre parce que il faut que les mesures adoptées soient vraiment adaptées justement au territoire considéré. Et d'un territoire français à l'autre, les enjeux d'adaptation ne vont pas du tout se décliner de la même manière. Et ce qui fait que c'est un enjeu qui est beaucoup plus difficile pour les collectivités. Alors, en termes de mesures d'adaptation, ce que l'on peut dire, c'est que elles vont d'abord se... Enfin, il y a un véritable enjeu qui est en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Et l'adaptation doit, de ce point de vue-là, se décliner à toutes les échelles d'un système urbain, depuis un bâtiment isolé jusqu'à l'agglomération dans son ensemble, et y compris en tenant compte de ses territoires avoisinants, son hinterland. Et l'enjeu, c'est en fait de réfléchir aux formes urbaines et pas uniquement à l'échelle des quartiers parce que sinon on risque de passer à côté d'enjeux majeurs. Et ça veut dire que l'adaptation, comme l'atténuation d'ailleurs, concerne à peu près tous les secteurs et toutes les fonctionnalités des villes. Donc ce sont effectivement des enjeux majeurs. Alors, par exemple, si on prend le PCAET de Rennes Métropole, qui a été adopté en 2019, celui-ci met l'accent sur la protection de la biodiversité, sur la végétalisation des villes, notamment pour faire face aux vagues de chaleur. Donc il y a vraiment un enjeu de rafraîchissement de la ville. Ça va passer aussi par la lutte contre les îlots de chaleur urbains, qui eux, en fait, sont un problème de météorologie locale. Et de ce point de vue-là, par exemple, le choix des matériaux utilisés pour les constructions va jouer beaucoup, en fait, sur l'atténuation, au contraire, le renforcement de ce phénomène d'îlots de chaleur urbains, qui se traduit par un différentiel de température en fait entre la ville et sa campagne et qui va être plus intense notamment la nuit que le jour. Et puis dans les mesures d'adaptation, il va y avoir des réflexions effectivement autour de la prévention des risques météorologiques extrêmes, et notamment pour les communes littorales bretonnes, il y a vraiment un enjeu de préparation aux submersions marines, aux phénomènes d'inondation aussi pour les autres communes, qui est un enjeu d'adaptation aussi très fort. Et puis, il y a toute la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour l'agriculture bretonne, qui alimente en fait aussi les villes en denrées. Et il y a un véritable enjeu aussi de mieux préserver les ressources en eau, qui deviennent de plus en plus mises à mal. Et voilà. Et donc, quand on parle d'adaptation, derrière cela, il y a toute une typologie de mesures qui peuvent être mobilisées. Et sachant que là, on n'est pas essentiellement sur des mesures technologiques. En fait, l'adaptation suppose véritablement de repenser en fait nos trajectoires de développement économique et urbaine. Et il faut les repenser en profondeur. En fait, de simples mesures d'ajustement à la marge ne seront pas suffisantes.
Merci beaucoup Béatrice Quesneau. On rappelle que vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Rennes 2 et membre du Haut Conseil Breton pour le Climat.
Merci.